Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La France et l'Allemagne à la recherche d'un compromis sur l'avenir de la zone euro. Des divergences profondes subsistent entre Paris et Berlin sur la méthode à adopter. Les forces syriennes lancent un ultimatum aux djihadistes de Yarmouk au sud de Damas. Les combattants de l'État islamique ont jusqu'à samedi pour quitter les lieux. L'appel à la convergence des luttes lancé par la CGT et Solidaire a mobilisé cheminots, fonctionnaires ou étudiants à travers toute la France. Mais les autres centrales syndicales n'ont pas rejoint le mouvement. Ils soutiennent la réforme de l'accès à l'université, mais réclament des moyens pour qu'elle ne soit pas condamnée à l'échec. 63 présidents d'université sur 73 ont signé cette tribune publiée par Le Monde. Il a fait un rapide passage à Berlin pour relancer ses projets de refondation de l'Europe. Emmanuel Macron s'est entretenu avec la chancelière allemande pour évoquer en particulier l'avenir de la zone euro. Les deux dirigeants ont promis une feuille de route commune d'ici le mois de juin. Mais pour l'instant, on en est loin, comme en témoigne le reportage à Berlin de Cyril Sauvageau.
Nous avons besoin de débats et de compromis. Angela Merkel ne le cache pas, Paris et Berlin n'ont pas la même idée de ce que doit être une réforme de la zone euro. Alors comment rapprocher les points de vue ? Emmanuel Macron préfère éviter les sujets qui fâchent, tels que l'idée d'un budget commun mal perçu en Allemagne. Mais pour le chef de l'État, l'objectif est bien d'aller vers davantage d'intégration.
Aucune union monétaire ne subsiste s'il n'y a pas des éléments de convergence. Et donc il faut ensuite trouver le bon instrument et les bonnes techniques. J'ai parlé d'une souveraineté économique et financière. Elle passe par plus d'unité, de cohésion. C'est pour moi le cœur de ce que nous devons chercher à obtenir.
La chancelière n'est pas fermée à toutes les propositions. L'Allemagne est prête, a-t-elle précisé, à parachever l'union bancaire. Elle évoque également le projet d'un fonds monétaire européen. Pas question pour autant de perdre de vue l'essentiel, responsabilité et discipline budgétaire.
Je crois que nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a besoin de solidarité en Europe, mais que la compétitivité est également essentielle. Pourquoi les programmes d'aide à l'Irlande, à l'Espagne, au Portugal ont-ils réussi ? Parce que c'était un bon mélange de solidarité et d'effort au niveau national.
Et pour mieux articuler solidarité et réforme, la chancelière propose d'associer à l'avenir les ministres de l'économie et leurs collègues des finances au sein d'un eurogroupe élargi.
Cyril Sauvageau à Berlin. Les forces syriennes viennent de donner 48 heures aux djihadistes de Yarmouk pour quitter les lieux. Yarmouk, c'est cet ancien camp de réfugiés palestiniens abondamment bombardé depuis des années par Damas, contenu par des combattants du groupe État islamique. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir Aurélie et bonsoir à tous.
Cet ultimatum est l'un des outils déployés par le régime syrien pour contrer les accusations d'utilisation d'armes chimiques à Douma.
Oui, le régime s'est empressé de masser des forces militaires aux abords de Yarmouk quelques heures seulement après les frappes américano-britannico-françaises de samedi dernier. Yarmouk n'a pas été choisi au hasard. Son siège, qui a commencé en 2013, avait été qualifié en 2015 de cercle le plus profond de l'enfer par Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l'ONU. 160 000 réfugiés y vivaient en 2011, il serait 10 000 à y survivre aujourd'hui. Yarmouk, martèle le régime sans sourciller, est une poche de résistance de l'État islamique et de l'ex-front al-Nusra à seulement 8 km du centre de la capitale. Combien de combattants ? De quelle faction se revendique-t-il ? Combien de bâtiments encore à même d'héberger des vivants ? Nul n'y a même de répondre. Qu'importe, Yarmouk et le secteur voisin de Hadjar al-Aswad valent bien un nouveau coup de force. La riposte, Aurélie, est à vrai dire plus ample. Yarmouk n'est que l'un des sites ciblés par le régime et ses alliés depuis les frappes occidentales. Il faut y ajouter Homs, Hama, le Kalamoun oriental, Rastan dans le centre du pays et ce raid mené aujourd'hui par l'armée de l'air irakienne contre Daesh. Cependant qu'à Bagdad, responsables du renseignement iranien, syrien et russe parlent, lutte contre le terrorisme dans la durée. La Syrie de Bachar el-Assad redouble d'efforts pour éradiquer Daesh, voilà ce qui affleure, et ses alliés font bloc malgré d'injustes bombardements et d'ingrates mises en cause de la part de ces démocraties qui ont enduré tant d'attentats.
Mathieu Laurent. La lettre est publiée conjointement dans le journal britannique The Guardian, dans le New York Times et dans Le Monde. Elle émane de 500 parlementaires européens de tous bords politiques qui apportent leur soutien à l'accord sur le nucléaire iranien. Signé en juillet 2015, cet accord a pour but d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire en contrepartie de la levée de sanctions économiques. Mais son avenir est suspendu à une décision de Donald Trump qui a menacé de se retirer de l'accord. Le président américain doit se prononcer le 12 mai prochain. Les parlementaires européens européen interpelle donc les membres du Congrès américain. Écoutez Delphine Ho, députée La République En Marche de Paris.
Aujourd'hui, le Congrès américain est divisé sur la question. Donc, historiquement, les démocrates derrière Obama ont soutenu cet accord. Une grande partie des républicains y étaient plutôt opposés. Mais ce qu'on a vu, en fait, depuis l'élection, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est qu'il n'était pas si facile de revenir sur un engagement qui a été pris par un précédent gouvernement. Et surtout qu'en fait, les États-Unis, que ce soit le Congrès ou Donald Trump, n'ont pas d'alternative à cet accord. Ils disent que cet accord est mauvais, qu'il faut s'en retirer, mais ils n'ont pas, à ce jour, proposé d'autres accords de grande coalition qui permettent à la communauté internationale de s'assurer que l'Iran ne recommence pas son programme nucléaire. Donc je pense qu'il est possible de peser en partie dans cette discussion pour rappeler, et c'est vraiment l'objectif de cette lettre et du format, que les Européens sont unis, ils sont solidaires sur cette question, y compris les Britanniques qui traditionnellement sont plutôt proches des positions américaines en politique étrangère, que par ailleurs ce n'est pas un sujet partisan, qu'en France, en Allemagne comme en Grande-Bretagne, toutes les sensibilités politiques soutiennent cet accord, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, et que les parlementaires, en plus des gouvernements, sont prêts à se mobiliser pour faire pression pour que cet accord soit maintenu. C'est vraiment nous, partenaires européens solidaires, nous adressons à nos collègues et à nos amis américains pour essayer de les convaincre de rester dans cet accord. C'est ce que font d'ailleurs Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May avec Donald Trump, déjà depuis plusieurs mois. Et là, les parlementaires viennent rajouter leur voix à cette conversation.
La députée LREM Delphine Ho répondait à Valérie Crova. Du changement dans la continuité à Cuba, sans surprise, le numéro 2 de l'exécutif cubain, Miguel Díaz-Canel, succède à Raúl Castro. Il a été élu par le Parlement sur un score sans appel et le nouveau président cubain s'engage à poursuivre la révolution. Le reportage d'Isabelle Labéry à La Havane.
Miguel Díaz-Canel, candidat unique adoubé par le régime, obtient 603 voix de député sur 604. Un score honorable. 99,83%. Au pas cadencé, trois militaires en veste blanche et pantalon kaki font des allers-retours sur l'estrade. Miguel Díaz-Canel et son mentor, Raúl Castro, se donnent longuement l'accolade. Les députés applaudissent à n'en plus finir. L'apparatchik qui offre au pouvoir cubain un visage plus jeune et plus moderne rend un hommage appuyé aux héros de la révolution, aujourd'hui nonagénaire. Une élite vieillissante qui le laisse venir à l'avant-scène, mais continuera dans l'ombre de tirer les ficelles.
Ma première pensée va à la génération historique qui nous accompagne avec un dévouement et une humilité exemplaires. Une génération qui nous aidera à répondre aux défis. Cuba attend que nous soyons, comme eux, capables de sortir victorieux de tous les combats qui nous attendent.
Miguel Díaz-Canel parle d'un moment historique. Il promet à la fois de poursuivre la révolution et les réformes économiques tant attendues par la population.
Isabelle Labéry, notre envoyée spéciale à Cuba. Faire converger les luttes, c'est l'objectif de la CGT et de Solidaires qui appelait aujourd'hui à une grande mobilisation interprofessionnelle. Quelques 130 cortèges ont été organisés dans toute la France. Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Marseille, comme à Lyon, Rennes, Bordeaux ou Strasbourg. À Paris, 15 300 personnes ont manifesté, selon le comptage des médias. Louis-Valentin Lopez, vous avez suivi le cortège parisien où cet appel à la convergence des luttes a été partiellement entendu.
Oui, la convergence qu'il est difficile de rater, c'est celle des étudiants. Plusieurs cortèges très fournis, très bruyants. Tolbiac, Nanterre et Sciences Po, dont les bâtiments sont occupés. Gabriella, première année, premier rang.
On est là aujourd'hui parce qu'on se mobilise avec tous les ensembles de lutte. C'est-à-dire on se mobilise avec les cheminots et les facs pour préserver le service public. Et aujourd'hui, l'école de Macron, elle est bloquée. Et les étudiants de Sciences Po, ils sont dans la rue pour protester contre la sélection.
Olivier Long, enseignant à la Sorbonne, est lui venu avec ses étudiants. Et sur leur banderole, il est fait mention de toutes les luttes.
Il fait une réforme sur les vieux, il fait une réforme sur la SNCF, il fait une réforme sur l'école, il fait une réforme sur le collège, il fait une réforme sur le lycée. Et il veut faire croire qu'il n'y a pas convergence des réformes.
Alors du côté politique, en revanche, la convergence est plutôt mitigée. Il y a des banderoles du Parti communiste, quelques pins France Insoumise, Clémentine Autain, députée du parti, au cœur du cortège.
Il y a une colère qui était sourde jusqu'ici et qui est en train de prendre forme. Jusqu'où ça ira, on ne peut pas le dire. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une montée en puissance.
Mais beaucoup de manifestants déplorent que seule la CGT est appelée à manifester aujourd'hui. Arnaud, agent d'entretien.
Le gouvernement, il fait tout pour diviser tous les syndicats et on n'en voit que très peu.
Presque pas de traces de force ouvrière, enfin si, quelques drapeaux un peu dispersés. L'un d'eux est tenu par Jean-Marc Quilla, cheminot. Il est secrétaire général du syndicat à la gare Montparnasse.
Il y aura d'autres occasions. Le 1er mai, le 22 mai, il y aura plein d'autres occasions. Il y a plein de mouvements qui sont divergents mais qui vont se rassembler. On espère que ça va se faire très vite.
D'ores et déjà, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est catégorique. Il refuse ce jeudi la main tendue de Philippe Martinez. La CFDT ne défilera pas avec la CGT le 1er mai. Divergence.
Il y a eu des heurts en marge de la manifestation parisienne boulevard Saint-Jacques. Des personnes cagoulées ont donné des coups de pioche dans les vitres de l'hôtel Marriott. Et les policiers ont essuyé des jets de projectiles. Ils ont répliqué avec des grenades lacrymogènes et un canon à eau. Édouard Philippe oppose une fin de non-recevoir au syndicat de cheminots. L'intersyndicale CGT-UNSA-Sud-CFDT de la SNCF avait décidé de suspendre sa participation à la concertation avec la ministre des Transports et voulait négocier directement avec le Premier ministre. Mais il vient de rejeter leur demande à Kim Kasmi.
Oui, Oli, ce soir la situation s'enlise. En ne voulant pas recevoir les syndicats à Matignon, Édouard Philippe entend montrer qu'il ne cédera pas face à la pression du gouvernement. Une décision et une position qui ne surprend pas Bruno Poncet, secrétaire général de Sudrail.
Ce gouvernement ne veut pas dialoguer. En plus, le gouvernement n'a rien à dire parce qu'ils n'ont aucune solution à apporter. Donc, c'est pas de la déception, c'est même pas de la colère. Ça continue. C'est-à-dire que depuis le début, ce gouvernement ne tient absolument pas compte de ce qu'on peut lui dire, n'écoute rien et surtout en train de s'enferrer dans une impasse qui, à mon avis, risque de revenir comme un boomerang parce que ça veut bien dire, et nous, c'est ce qu'on dit depuis le début, que ce gouvernement a toujours refusé de négocier et de dire qu'on veut pas, que nous ne voulons pas négocier, c'est entièrement faux. On voit bien que c'est ce gouvernement qui refuse les négociations.
Le Premier ministre, qui se sent conforté par le vote à l'Assemblée mardi, renouvelle ce soir sa confiance à Elisabeth Borne, la ministre des Transports, pour poursuivre les négociations avec les syndicats, sauf que ces derniers ne veulent plus discuter avec elle. Du coup, le mouvement pourrait encore plus se durcir, car les cadres, une partie d'entre eux du moins qui n'étaient pas grévistes et qui pensaient que le gouvernement allait faire des concessions, pourraient eux aussi rejoindre le mouvement. L'intersyndicale doit se retrouver pour l'instant lundi, mais les choses pourraient bien évoluer dans les prochaines heures vu la situation. Quant au prochain épisode de grève, il est prévu, lui, dès dimanche soir.
Hakim Kasmi, la grève des salaires à Air France va se prolonger. Après 9 jours de grève, l'intersyndicale appelle à accentuer la mobilisation. La fronde contre la réforme de l'université continue elle aussi avec 4 sites totalement bloqués et une dizaine d'autres perturbés. Mais aujourd'hui, les présidents d'universités donnent de la voix. Dans une tribune publiée sur le site du Monde, un collectif de 63 présidents sur un total de 73 prend la défense de cette réforme. Elle n'est en rien une sélection, disent-ils, mais elle impose de déployer des moyens humains et financiers, Catherine Pétillon.
Oui, cette fois, c'est de manière collective et majoritaire que les présidents d'universités défendent l'esprit de la loi. Ils soulignent certes qu'informer, orienter, accompagner les étudiants réclament des moyens nouveaux, mais estiment surtout que remettre en cause la réforme serait, je cite, à la fois nier la réalité vécue et continuer de sacrifier une partie de la jeunesse. Michel Deniken, le président de l'Université de Strasbourg.
Cela fait des années que nous alertons sur le fait que le fossé entre lycée et université ne cesse de se creuser et que la réussite étudiante en pâtit terriblement. Et ne rien entreprendre, c'est tout simplement continuer à assurer l'échec grandissant de nos lycéens à l'université. Toute réforme, toute loi est imparfaite, c'est évident, mais il faut l'expérimenter. Allons-y.
Également signataire de cette tribune, Joël Alexandre, le président de l'Université de Rouen, voit en même temps la mobilisation grandir dans son établissement et il estime désormais indispensable d'apporter des explications aux opposants, notamment sur les modalités concrètes de Parcoursup. Dans un autre texte publié hier et qu'il a signé avec 5 autres présidents, il appelle donc à des négociations sur la mise en œuvre de la loi.
Nous, on a un peu tiré la sonnette d'alarme. On voit bien qu'on radicalise les positions des uns et des autres. Si on réaffirme notre attachement aux objectifs affichés, on fait quand même le constat qu'aujourd'hui, peu de réponses sont apportées s'agissant des inquiétudes évoquées par les uns et les autres. On a failli lundi avoir quand même des affrontements entre des étudiants. J'ai donc pris la décision d'une fermeture administrative sur le campus en question. C'est une tension qu'il faut arriver à apaiser et à essayer d'entendre les inquiétudes des uns et des autres et d'y répondre.
Désormais, il attend donc que des discussions rassemblent autour d'une même table défenseurs et opposants à la réforme.
Catherine Pétillon. À Notre-Dame-des-Landes, les zadistes s'interrogent sur la suite à donner à leur mouvement. Ils ont jusqu'à lundi pour remettre leur dossier de projet agricole individuel. Et hier, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, les a appelés à la raison, soulignant la retenue dont avaient fait preuve jusqu'à présent les gendarmes. Véronique Rebérotte a tendu son micro à Camille, qui est assez inquiète.
La déclaration de Nicolas Hulot hier, on la comprend pas, surtout lui, sa posture politique, je veux dire, on est très étonnés. Après, on sait qu'il pourrait être plus violent, on sait qu'il pourrait faire des choses beaucoup plus offensives. On souhaite pas ça. Ce qui nous étonne, c'est le déploiement d'autant d'armes et d'effectifs et de la violence. Enfin, je veux dire, des pluies de grenades, quoi. On est face à des pluies de grenades, quoi.
Les jaunes, c'est ça qui tue.
Effectivement, la retenue, on ne la comprend pas, tout en étant en connaissance de cause qui pourrait taper beaucoup plus fort, beaucoup plus loin et beaucoup plus dangereusement à partir du 23. Et en fait, nous, ce qu'on tenait à dire aujourd'hui, c'est poser cet avertissement de, en fait, aujourd'hui, vous parlez d'une retenue, ce qui est un non-sens, mais en fait, si vous décidez d'outrepasser cette retenue, c'est des morts face auxquelles vous allez vous retrouver confrontés. Et encore plus de blessés, évidemment.
La préfète Nicole Klein a proposé aux zadistes de les recevoir à nouveau demain. Ils prendront leur décision ce soir en Assemblée générale. Un plan pour l'avenir de Mayotte sera détaillé au mois de mai. Ce matin, une délégation d'élus maorais a été reçue à Matignon, quelques jours après l'arrivée sur l'île d'un nouveau préfet, jusqu'ici bras droit de la ministre des Outre-mer. Édouard Philippe a présenté aux élus quelques mesures du futur plan de rattrapage et de développement du département. Après le mouvement social qui a paralysé Mayotte pendant plusieurs semaines, les choses commencent à s'améliorer, mais rien n'est complètement réglé, Stéphane Robert.
Il n'y a pratiquement plus de barrages sur l'île de Mayotte. Ils sont petit à petit en train d'être levés. Les gendarmes ont repris les expulsions de clandestins vers les Comores. Les enfants, eux, ont regagné le chemin de l'école. Et l'économie insulaire commence doucement à redémarrer. Et puis Édouard Philippe a esquissé ce matin, à travers quelques annonces, les contours d'un plan d'action à plus long terme qui sera pleinement dévoilé à la mi-mai.
Nous allons poser les bases d'une agence régionale de santé de Mayotte et créer un rectorat de plein exercice pour le département. De même, Pôle emploi va renforcer l'autonomie de sa direction basée à Mayotte.
Les choses ont commencé à évoluer dans le bon sens il y a 15 jours environ, disent les élus maorais, avec la nomination du tout nouveau préfet Dominique Saurin, ex-bras droit de la ministre de l'Outre-mer. C'est ce que nous dit Tani Mohamed Swalihi, sénateur La République En Marche de Mayotte.
Nous assistons à une prise de conscience réelle. C'est le premier préfet expérimenté qui ne vient pas à Mayotte pour monter un galon. Donc c'est à souligner, maintenant ce n'est pas tout.
Ce n'est pas tout, non. Les problèmes endémiques de l'île de Mayotte demeurent et tout ne va pas se régler en un coup de baguette magique, selon le député Les Républicains, Mansour Kamardi.
Tout ça, ça va dans la bonne direction, mais nous dirons qu'à ce stade, nous sommes encore loin du compte, bien évidemment. Et j'espère qu'effectivement, au 15 mai, les Maorais auront remarqué qu'ils ont été bien entendus.
Le 15 mai, on attend donc le plan détaillé du gouvernement en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'emploi. Sans oublier l'aspect sécurité, Tani Mohamed Swalihi.
Tout ceci sera vain si on ne trouve pas une solution pour massivement éradiquer la problématique de l'immigration clandestine.
Si la situation à Mayotte s'est un peu améliorée ces deux dernières semaines, le climat reste explosif et il suffirait d'un rien pour qu'on voit ressurgir les barrages qui ont paralysé l'île pendant près de 2 mois.
10 jours après l'audition du patron de Facebook devant le Congrès américain, le Sénat français étudie un projet de loi relatif aux données personnelles. Il s'agit de transposer une directive européenne, le Règlement général de la protection des données, dans le droit français. Il doit être appliqué le 25 mai. Mais Assemblée nationale et Sénat ne sont pas d'accord. Lucas Caltritti. Et le vote prend du retard.
Ce matin, devant les sénateurs, la ministre de la Justice exprimait son regret. Pour Nicole Belloubet, une adoption rapide du texte aurait été un signal positif. Mais la commission mixte paritaire, où députés et sénateurs doivent trouver un compromis, a été un échec. Esther Benbassa, sénatrice écologiste, s'agace de la pression mise par le gouvernement.
Bon, le retard est rattrapable. Écoutez, il ne faut pas non plus... Le gouvernement n'avait qu'à nous envoyer ce texte bien avant. Il connaissait la date limite. Franchement, là, c'est aussi une politique politicienne pour faire la procédure accélérée, mettre tout le monde sous pression et faire passer au plus vite ce que le gouvernement veut faire passer. Il faut arrêter un peu avec ça. Ici, les procédures accélérées deviennent la règle.
Et dans ce jeu de navette législative, le Sénat est perdant. Maryse Carrère du groupe RDSE est un peu déçue par les élus du Palais Bourbon.
On soupçonne quand même qu'il y ait eu une posture de l'Assemblée nationale qui veut reprendre
un petit peu le pouvoir en disant « Bon, le Sénat, c'est bien, mais ce que vous faites, ça nous amuse, mais nous, on veut vraiment vous dire qui a le dernier mot. » Donc, c'est l'Assemblée nationale, certes, qui a le dernier mot, mais je trouve que c'est un petit peu dommage, cette posture, parce que le travail du Sénat est unanime aujourd'hui sur ce texte.
En effet, Sophie Joissin, la rapporteure du texte au Sénat, a été copieusement applaudie par ses collègues après sa prise de parole. Mais quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale aura donc le dernier mot, le retard sera rattrapé et la directive européenne sera appliquée pour le 25 mai.
Le temps restera ensoleillé et chaud. Demain, les minimales iront de 8 à 16 degrés, les maximales de 24 à 29 degrés. En général, un petit peu moins en bord de Manche. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.